Nathalie Jobin, bonjour.
Oui, bonjour.
Bon, l'un des objectifs de ces deux webinaires qui seront présentés le 20 et le 26 mai, c'est de rassurer, j'imagine rassurer en premier lieu les parents qui vivent ce genre de problématiques avec leurs enfants. Est-ce que les problèmes alimentaires chez les jeunes autistes, ça entraîne beaucoup d'inquiétude? Est-ce que c'est un constat que l'on a fait?
Oui, je pense que ça inquiète beaucoup de parents parce que, bon, l'alimentation, de façon générale, inquiète les parents de tous les enfants. Et compte tenu du fait que certains enfants qui autistes ont des particularités alimentaires, soit reliées à leur comportement ou soit reliées à la sélectivité alimentaire, ça entraîne bien sûr des inquiétudes supplémentaires de la part des parents parce qu'ils se demandent si, par exemple, un enfant qui mange presque pas, qu'en fait, il mange très peu d'aliments, va s'inquiéter sur son développement, sur la valeur nutritive de son alimentation de façon générale. Donc oui, il y a de l'inquiétude et il y a beaucoup de stress aussi, je pense, qui entoure les repas dans ces familles-là. En fait, on veut les rassurer, mais on veut surtout les informer et les outiller parce qu'il y a quand même des solutions face à tout ça, même si pour certains cas, ça peut s'avérer plus difficile ou plus long comme processus, mais reste qu'il y a quand même des pratiques qui peuvent être utiles pour ses parents.
Nathalie, utiliser le terme particularité est-il plus juste que problème alimentaire?
Oui, je dirais tout à fait particularité parce que c'est comme je disais, il y a des solutions à ces particularités-là. Ça demande de la patience, de la coopération, mais ce n'est pas irrésolu là, comme pas du tout.
Et ça demande également une compréhension de ces adultes qui entourent les jeunes avec un trouble du spectre de l'autisme. Est-ce que l'on connaît les causes de ces particularités alimentaires?
En fait, il peut en avoir plusieurs et peut-être qu'un enfant peut même présenter les trois ou même d'autres, là. Mais il peut avoir des causes, tout à fait physiologiques, soit une difficulté au niveau de la digestion, du reflux gastro-intestinal, bon, qui va faire en sorte que l'enfant va avoir des inconforts lorsqu'il mange. Donc, il y a les causes physiologiques. Il y a aussi des causes qui peuvent être sensorielles. Donc, certains enfants souffrant du spectre du trouble de l'autisme peuvent souffrir d'hypersensibilité sensorielle, ce qui fait que les saveurs dans leur bouche sont explosées comparativement à quelqu'un qui a une sensibilité plus normale, je dirais. Donc, à ce moment-là, il y a une grande réponse face au changement par rapport en lien avec l'hypersensibilité qui ressentent au niveau de la bouche. Donc, il y a une cause sensorielle, il peut y avoir des causes comportementales, tout simplement par un manque d'intérêt, de curiosité, des rigidités qu'on retrouve beaucoup chez ces enfants-là qui ont besoin de routine, de répétition, des choses tout à fait pareilles d'un repas à l'autre, de réticence à la nouveauté. Donc, ça peut être une de ces causes-là, comme ça peut être les trois ensemble. Donc, il faut vraiment... Et les parents sont les mieux placés parce que c'est eux qui connaissent le mieux leurs enfants. Donc, il y a des choses différentes qu'on peut faire en connaissant les causes.
Et comment on fait, bien sûr, en tant que parent, et je trouve que vous le mentionnez bien, et c'est important de le faire, on est les premiers experts de nos enfants. Comment on fait pour départager caprices ou particularités alimentaires qui est liée au TSA?
Ouais, c'est pas toujours évident effectivement de délimiter les deux. Ça se pourrait qu'il y ait les deux aussi, mais comme chez un enfant à développement normal, c'est la même chose, même s'il n'y a pas le lien avec la maladie. Mais reste que ce qu'on a l'air de en fait dans la littérature, puis d'après les témoignages qu'on a récoltés, ce qui semble ressortir de tout ça, c'est que en fait les enfants TSA, là, que je dis qui souffre d'un trouble du spectre de l'autisme, les TSA donc ont un développement au niveau du développement du goût qui serait comme tous les autres enfants, mais ils semblent, en fait, ce qui ressort, c'est que peut-être que c'est beaucoup plus long comme processus pour eux. Donc, déjà, avec un enfant, avec un développement normal, ça demande beaucoup de patience et de répétition, et on présente les aliments, même s'ils sont refusés, puis fois après fois, jusqu'à éventuellement à ce qu'ils soient acceptés par l'enfant. Donc, ce processus-là est plus long et peut-être plus complexe. Donc, ça demande encore plus de patience et d'ouverture de la part des parents. Et on comprend que parfois, c'est juste pas possible, là, puis qu'on utilise des stratégies pour couper court, pour arriver au résultat voulu qui est de manger. Mais autant que possible, on se dit, bon, mais il y a quand même des stratégies qu'on peut utiliser, là. Puis même si c'est un caprice, en étant constant et dans nos stratégies, ben on va quand même avoir un résultat.
Mm-hmm. Vous parlez beaucoup de stratégies, Nathalie. Bon, quelles sont-elles?
Ben, en fait, il y en a plusieurs. Le premier, je pense que le parent, faut qu'il ait toujours en tête qu'il sert de modèle à son enfant. Et par rapport au repas ou à l'alimentation, ben ce modèle-là doit être positif, c'est-à-dire que le parent doit lui-même manger une grande variété d'aliments et le faire en présence de son enfant, idéalement, donc manger, partager son repas avec le reste de la famille, avec tous les enfants, et de manger avec enthousiasme et de montrer de l'intérêt, de peut-être partager un peu les connaissances au niveau des aliments, que ce soit lorsqu'on est en train de préparer des aliments, on peut peut-être, dans la mesure du possible, discuter avec l'enfant de ce qu'on est en train de préparer. Donc, on essaie de sensibiliser l'enfant à l'aliment qu'il va manger au repas.
Et de le préparer également.
Et de le préparer, bien sûr, de le faire contribuer. Et ça a un impact très, très grand chez les enfants quand ils mettent les mains à la pâte eux-mêmes et qu'ils manipulent les aliments, mais, puis qu'ils les aident à le préparer. C'est clair que ça donne un point positif pour vouloir goûter après à cet aliment-là.
Oui. On le disait tout à l'heure, bien souvent, pour les enfants qui présentent un trouble du spectre de l'autisme, la routine, c'est très, très important. Alors, j'imagine qu'intégrer de nouveaux aliments au régime alimentaire, ça peut être un grand défi pour les familles.
Absolument. Et c'est là qu'on arrive à une autre stratégie qui s'appelle qu'on appelle la familiarisation ou l'exposition répétée. Donc pour tous les enfants, donc qui vont passer par des stades de néophobie, c'est-à-dire qu'ils ont la néophobie, c'est une peur de la nouveauté, dans ce cas-là des nouveaux aliments. Donc c'est d'exposer à plusieurs par plusieurs fois un même aliment qui peut être refusé les 10 premières fois là, mais le but c'est d'exposer l'enfant sans l'obliger, mais de le mettre dans son assiette à travers, bien sûr, des aliments qui sont peut-être un peu plus connus. Là, on va pas tout d'un coup mettre une assiette qui est complètement nouvelle ou juste des aliments nouveaux, et de le présenter à chaque fois, et bien sûr toujours avoir le rôle de modèle, c'est-à-dire que les parents et la fratrie vont manger avec enthousiasme de cet aliment-là. Il peut être préparé de différentes façons, présenté de différentes façons, mais il faut juste savoir que peut-être que l'enfant TSA va percevoir, même si c'est toujours la carotte qui est la base, là, si elle est pilée ou bien présentée en rondelles, peut-être que pour l'enfant ça va être complètement un aliment différent. Donc, il faut leur présenter de la même façon, peut-être plusieurs fois.
Surtout lorsque l'on parle d'hypersensibilité sensorielle, j'imagine la façon dont l'aliment est en bouche, est ressenti en bouche, c'est différent si c'est en purée ou en rondelle, évidemment.
Absolument. Puis il y a des enfants qui ne tolèrent pas le mélange de textures, là aussi. Là. Donc, aussitôt qu'il y a du mou avec un peu de croquant, ça ne fonctionne pas. Donc, ça, c'est. Bon, mais les parents connaissent leur enfant. Des fois, certains enfants ont des hauts le cœur quand il y a un petit peu de texture. Par exemple, une fleurette de brocoli. On nous a rapporté qu'un enfant trouvait que les petits poils lui chatouillaient la gorge. Donc, c'est un signe d'hypersensibilité. Bon, on va peut-être lui présenter autrement, en purée. À ce moment-là, ça va peut-être mieux passer qu'évidemment cru ou bien en fleurette. Donc, oui, c'est ça.
Et ça peut être vaste comme particularité, Nathalie. On s'est déjà rencontrés, je pense qu'on peut le dire. Et je vous parlais de cette maman qui me racontait que son garçon, qui a un trouble du spectre de l'autisme, lui, c'était lié aux couleurs. Donc, certaines couleurs dans son assiette, il refusait. Je pense que c'était le vert, donc ça peut aller jusque-là.
Absolument. Et moi, on me rapportait que, une pizza qui était un aliment tout à fait aimé et connu d'un enfant, s'il y avait eu, par malheur, une petite goutte de vert ou on avait fait un lapin avec la pizza, là, puis qu'on avait mis un petit poivron vert pour l'œil, bien que c'était fini, là, que la pizza était complètement refusée. Ouais. Donc, oui, ça se peut. Et ça, c'est pas de la néophobie, là, donc il faut peut-être éviter là, de mettre le petit verre dans l'assiette, mais reste qu'il faut quand même, à un moment donné, présenter des aliments, parce qu'il y a beaucoup de légumes verts qui ont une valeur nutritive super bonne.
Mais ouais.
Donc, c'est peut-être de le mettre à part, de lui présenter à côté pour pas que ça interfère avec, ben, justement, de manger son repas principal, mais qu'on lui mette à côté dans l'assiette. Et à ce moment-là, ben, à répétition, à un moment donné, si l'enfant voit tout le monde de la famille apprécier cet aliment-là, ben, il va peut-être se décider à lui goûter.
Mm-hmm.
Surtout s'il l'a préparé aussi. Donc, il y a toutes ces stratégies-là qu'il faut penser.
Ces particularités alimentaires-là, Nathalie, elles paraissent quand? Est-ce que c'est dès la naissance chez l'enfant qui a un trouble du spectre de l'autisme?
Ah, ça, c'est une bonne question. Je pourrais pas vous dire si ça apparaît dès la naissance, dès les purées. Peut-être que, ça, honnêtement, je voudrais pas répondre.
Dès l'allaitement,
tu sais. Oui, peut-être. Je ne le sais pas.
Évidemment, j'imagine que, bon, éventuellement, la littérature pourra nous le dire et les études qui se poursuivront. Il y a un autre défi pour ces enfants-là, parce qu'un jour, bon, il y a la garderie, il y a l'école, il y a les sorties avec les amis, il y a les sorties au restaurant. Est-ce que c'est possible de les sortir, les enfants, tout de même?
Bien, pour certaines familles, c'est très difficile. Je pense qu'il y a, évidemment, on ne va pas utiliser ces stratégies-là quand on est à l'extérieur. Bon, ça peut être très contraignant, mais je pense que oui. Mais à ce moment-là, on y va avec des zones de confort ou des zones un peu de sécurité. Je pense qu'en choisissant des plats très très simples, bon, évidemment, ça dépend de l'enfant, mais je pense que c'est faut pas s'empêcher non plus de sortir, là, mais ça, c'est vraiment au cas par cas, puis de voir la façon dont l'enfant réagit dans un milieu externe comme ça. Ça peut être aussi subtil. Bon, moi, il y a une mère qui nous rapportait que son enfant mangeait très bien sa recette de bon pâté chinois ou de macaroni, je ne sais trop, à la maison, et que sa mère, à la dame, faisait la même recette, et l'enfant refusait de manger ce macaroni-là chez la grand-maman. Et c'était exactement la même chose. Même à un moment donné, la maman est allée le faire chez la grand-maman et il a encore refusé. Jusqu'à ce qu'il trouve que, en fait, il réalise que à la maison, pour brasser ou servir, on utilisait une cuillère de bois, et chez la mamie, c'était une cuillère en métal.
Ah, en métal.
Et ça changeait le goût de l'enfant. Pour l'enfant.
Alors,
et
c'était perceptible pour lui.
Oui, à ce moment-là, il refusait. Et du moment où ils ont compris ça et que chez la mamie, ils ont refait la même recette en utilisant une cuillère de bois, il y a eu zéro problème. Alors.
À ce que j'entends, Nathalie, c'est d'être vraiment à l'écoute. Et j'imagine que c'est un message que vous allez vouloir véhiculer lors des deux webinaires.
Absolument, d'être à l'écoute. Puis je trouve ça merveilleux que cette mère-là ait eu un déclic, qu'elle ait pensé, parce qu'elle aurait pu se dire, bon, c'est un caprice, mais visiblement, c'était pas un caprice, là. Et il le sentait, l'enfant. Du moment où elle a changé l'ustensile pour servir, il y a eu... ça a fonctionné. Donc, il faut essayer de trouver des petites solutions comme ça qui vont changer, en fait, la vie, là.
En terminant, Nathalie, quels peuvent être les impacts sur la santé de ces jeunes-là? Bon, bien sûr, on pense d'entrée de jeu aux carences alimentaires. Si, par exemple, on refuse les légumes verts systématiquement, est-ce qu'il peut y avoir d'autres soucis de santé entraînés par les particularités alimentaires?
Ben, c'est certain qu'un enfant qui a une très grande sélectivité, donc qui fait que son éventail alimentaire est très, très restreint. On parle de 20 aliments et moins. C'est certain qu'à ce moment-là, il y a peut-être des soucis du point de vue de la qualité globale de l'alimentation. Mais je pense que si les parents s'inquiètent, je pense qu'il faut absolument aller consulter pour aller faire vérifier s'il n'y a pas des carences potentielles ou se faire rassurer, tout simplement. Bon, on ne sait pas, mais je pense qu'il faut, parce que c'est très stressant pour des parents de s'inquiéter de ça jour et après jour. Et normalement, on dit tout le temps que les enfants ne se laisseront jamais mourir de faim, mais on ne sait pas. Fait qu'il faut quand même valider si l'inquiétude est trop grande, aller vérifier auprès de nutritionniste, et donc elle va évaluer l'alimentation de l'enfant, et après ça, ben, pouvoir faire des ajustements si nécessaire, ou tout simplement rassurer, puis de donner quelques conseils.
Est-ce que l'on sait, Nathalie, s'il y a plus de cas de malnutrition, de retard de croissance observés chez les enfants qui vivent avec l'autisme?
Ben, on n'a pas fait de revue de littérature à ce sujet-là parce que vraiment, tous, nous, ce qui nous intéressait avec notre collaboration avec Altergo, c'était vraiment au niveau des comportements, comment ça se passe, l'ambiance du repas, comment on fait pour que ça soit mieux. Donc, on ne s'est pas inquiété à la qualité de la diète comme telle. Et donc, il faudrait peut-être poser plus la question à des cliniciennes, mais dans ce qu'on a pu lire, j'ai pas l'impression que c'est très fréquent.
OK.
Mais bon, peut-être
Et tant
que je
mieux.
Me trompe.
Ouais.
Là. Oui, ben, oui, c'est certain. Certain.
Oui. Mm-hmm. Alors, on rappelle ces dates du webinaire 20 mai où on abordera les particularités alimentaires, 26 mai, les comportements spécifiques, mais surtout ça lié aux jeunes qui vivent avec un trouble du spectre de l'autisme pour aider les adultes qui entourent ces jeunes, les parents, bien sûr, les familles. Est-ce que l'on peut encore s'inscrire, Nathalie?
Je crois que oui.
Bon, mais d'accord, on mettra tous les liens sur le site du Canal M. Je rappelle, vous êtes directrice d'Extenso, le centre de référence en nutrition de l'Université de Montréal. Nathalie Jobin, toujours un plaisir.
C'est un plaisir. Et peut-être, si je peux rajouter, en fait, vous pouvez tout de même vous inscrire, même si vous ne pouvez pas demain y assister en direct, parce qu'en vous inscrivant, on peut vous envoyer un lien par la suite pour pouvoir le regarder plus tard quand ça vous conviendra.
Oui, c'est ça, c'est à 12h30 en direct, mais dans quelques temps, là, les gens pourront, ça sera disponible pour le grand
Absolument.
Public en ligne.
Absolument.
Merci Nathalie, bye
ça
bye.
Ça fait plaisir, au revoir.